comme certaines personnes le disent. Hein? Savez-vous, c'est God's country dans la région, dans le nord aussi, hein, à Beresford, là. Puis même dans l'ouest aussi, là, dans la région de Edmundston. Et on est béni, oui, d'avoir des baptêmes d'eau ce matin. Et puis, la dernière fois que j'étais à Edmundston, on a eu un baptême d'eau aussi. Et à la fin du baptême, il y a d'autres personnes qui ont venu me voir et ont dit « Hey, pasteur, on aimerait ça de se faire baptiser une autre aussi. » Ça fait que lorsque je retourne au mois de juillet, on a un autre baptême d'eau. Et vraiment, on voit des belles choses se produire vraiment dans la francophonie. On voit un mouvement, vraiment. Le Seigneur, il est à l'œuvre dans les cœurs. Et parmi les Acadiens aussi, parmi la francophonie, puis c'est vraiment un privilège de pouvoir servir le Seigneur dans ce temps-ci. Puis en passant, tu disais, Robert, que tu allais inviter le premier ministre. Vous savez, ça m'a fait penser, quelques années passées, il y a une dame à Beresford qui est venue me voir. C'était elle qui était responsable du ministère des femmes. Elle vient me voir, puis elle me dit, « Pasteur a dit, j'ai à cœur d'inviter la femme du premier ministre pour venir parler à notre ministère des dames. » J'ai dit, un petit peu flyé, là. Et finalement, ben, j'ai dit, « Écoute, Nicole, si le Seigneur a mis ça à cœur, invite-la, tu sais pas. » Et elle l'a invitée, puis elle est venue. Elle est venue, puis elle s'est adressée à toutes les femmes du ministère des dames, puis de la région. Et c'était vraiment une belle opportunité. Et en fait, c'est la femme de Bernard Lord. Et vraiment, c'était... Ça fait que tu ne sais pas ce qui peut arriver, hein? On a besoin de prier, en tout cas, hein, pour ceux qui servent le Seigneur dans ces positions-là. C'est sûr et certain. Amen. Bien, écoutez, merci Claudette pour avoir partagé, qu'est-ce que tu as partagé, puis merci Mireille aussi, parce que je trouve que ça va un peu dans qu'est-ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, de partager avec vous. Et si vous avez votre Bible avec vous ce matin, je vais vous demander de tourner dans 2 Pierre, l'épître de 2 Pierre au chapitre 1. Et puis... le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Une provision complète pour vivre selon le cœur de Dieu ». Et si je vous poserais la question, est-ce que vous avez déjà douté de vos capacités de réussir peut-être dans un projet ou dans un travail ou dans vos études pour ceux qui sont... peut-être aux études ou dans un certain ministère que Dieu vous appelle à faire, vous vous demandiez si vous avez vraiment les capacités pour réussir, tu sais, qu'est-ce que vous devez faire? Y a-t-il des gens comme ça, vraiment? Je pense que ça nous arrive assez souvent. Puis dans un sens, c'est pas une mauvaise chose qu'on est... parce que des fois, on peut être un peu trop confiant, vous savez. Mais je me souviens, moi, lorsque j'étais à l'université... et au collège biblique aussi, j'ai eu des bons enseignants. J'ai eu des bons enseignants, puis j'en ai eu qui étaient moins bons. Et j'ai entendu dire que Robert, c'est un bon enseignant. Il y a des gens qui m'ont dit ça, mais les bons enseignants que j'avais, vous savez, ils nous expliquaient la matière, ils nous expliquaient la direction qu'on allait prendre, et puis l'endroit qu'on pouvait trouver les ressources... Vous savez, puis leur disponibilité pour nous aider. Et vraiment, les bons enseignants ou les bons coachs, pour ceux qui jouent du sport, hein, et vraiment, ils veulent que les bons enseignants, ils voulaient vraiment qu'on réussisse, puis ils préparaient toute la provision nécessaire vraiment pour qu'on puisse réussir. Ça, c'est un bon enseignant. Et ça peut s'appliquer, comme je disais, dans un travail, un ministère, une tâche, quelque chose. Il y a des personnes, vous savez, qui recherchent à préparer toute la provision pour les autres personnes afin qu'ils puissent bien réussir dans ce qu'ils leur demandent de faire. Il y a des gens comme ça, hein? Et c'est vraiment une bénédiction. Moi, je peux vous dire que mon épouse Valérie, elle est partie pour un mois en Colombie-Britannique visiter notre fille, et aidé avec Dylan, notre petit garçon Dylan. Puis je peux vous dire que Valérie, elle m'a préparé des provisions, de la nourriture pour tout le mois au complet. C'est dans le congélateur, elle prend vraiment bien soin de son mari. Merci Seigneur. Puis comme vous pouvez voir, je ne crée pas de faim. Mais je vous dis ceci pour vous dire que c'est la même chose avec Dieu. Dieu, vous savez, c'est le meilleur enseignant, c'est le meilleur maître, c'est le meilleur père qui prépare et pourvoit à tout ce que nous avons besoin pour réussir dans notre vie. Il nous connaît personnellement, il sait où ce que nous sommes vraiment, vous savez, et il pourvoit tout ce que nous avons besoin pour faire sa volonté, pour qu'on réussisse dans la vie, dans notre marche avec lui et dans la vie aussi. Et Dieu a un plan pour notre vie. Il y a un plan pour notre vie quand on est jeune. Il y a un plan pour notre vie. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu, vraiment, il est là pour nous. Il a pourvu pour nous. Et ce matin, j'aimerais vous parler. Le titre du message, c'est ça, une provision complète pour vivre selon le cœur de Dieu. Ou on pourrait dire pour réussir dans notre vie, pour connaître toute la plénitude que Dieu désire déverser dans notre vie, vous savez. Et je vais vous parler de deux choses, la provision de Dieu et aussi qu'est-ce qu'on doit faire avec la provision que Dieu a pourvue pour nous. Parce que la provision de Dieu, vous savez, ça n'enlève pas, on pourrait dire, notre responsabilité ou notre part d'utiliser qu'est-ce que Dieu a pourvu pour nous. Ça n'enlève pas notre responsabilité de recevoir. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Il a pris nos péchés, mais il faut le recevoir comme notre sauveur personnel, vous savez. Dieu a pourvu tout ce que nous avons besoin, mais il faut le recevoir. Et c'est un peu, vous savez, comme, les étudiants aux études, vous savez, la bibliothèque, elle est disponible pour les étudiants d'aller trouver leurs réponses à leurs problèmes. Les enseignements des professeurs sont disponibles. Toutefois, c'est la responsabilité des étudiants d'être présents pour recevoir les enseignements. Et aussi, c'est la responsabilité des étudiants de prendre le temps pour étudier, vous savez. Et c'est comme ça dans n'importe quel domaine. Les ressources sont là, mais il faut les utiliser. Et cette année, j'avais vraiment sur mon cœur, vous savez, ce thème-là de vivre notre vie selon le cœur de Dieu. Ça veut dire, en fait, de connaître Dieu, puis de connaître, oui, tout son amour, comme on a chanté, vous savez. Puis aussi que notre vie puisse refléter le cœur de Dieu. C'est vraiment, Et je crois que c'est ça que Dieu désire pour chacun de nous. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que c'est possible de vivre notre vie selon le cœur de Dieu. Parce que Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin. Et Dieu est là pour nous aider, pour nous accompagner. Amen. On est gagnant en partant, vous savez. Et en fait, c'est exactement ce que l'apôtre Pierre nous dit, qui dit aux chrétiens de sa génération, on va le voir tout à l'heure. Et c'est ce que Dieu nous dit aussi. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu nous a équipés, qui a vraiment tout pourvu pour nous, ce que nous avons besoin pour vivre, pour connaître pleinement la vie qu'il désire nous donner? Qu'on peut s'épanouir dans le plan qu'il y a pour notre vie? Croyons-nous vraiment ça? Les jeunes qui sont ici, là, croyez-vous ça que Dieu a un plan pour votre vie? Hein? Amen! Il veut vous aider à l'accomplir, il veut être là pour vous, il veut vous bénir, il veut être là. Puis peut-être qu'il y en a qui vont jouer du hockey, peut-être c'est ça que Dieu vous appelle. Tu sais? Je rencontre souvent les titans, hein? L'équipe de hockey, puis je parle à des jeunes, tu sais? Puis peut-être que c'est là que Dieu les appelle à servir le Seigneur, à être des lumières puis des témoins dans cet endroit-là. Peut-être. Et Dieu, il veut nous bénir et il veut nous utiliser partout où il nous appelle, vous savez. Et en fait, vous savez, parfois, il faut se le rappeler que Dieu m'a donné tout ce que j'ai besoin. Moi, il faut que je me le rappelle, puis je pense que vous aussi, de temps en temps, il faut se dire ceci. Ça fait que, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? On va lire ça ensemble. Dans 2 Pierre, en fait, c'est ça que l'apôtre Pierre dit. Et je veux pas me tromper, là. Ça va bien? OK. On va lire à partir du verset 3, verset 4, et je vais lire dans la version dans la version de la Bible, second 21. Je trouve que ça l'explique bien, mais vous pouvez suivre dans votre version. Il dit ceci. Il dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise et devenir participants de la nature divine. » Et dans le prochain verset, il dit ceci, il dit, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Seigneur, je prie que par ton esprit, Seigneur, tu parles à chaque personne ici, Seigneur. Tu connais leur cœur, tu connais leur vie, Seigneur. Tu les aimes d'un amour éternel, Seigneur. Tu es mort à la croix, Seigneur Dieu, pour eux, Seigneur, afin qu'ils te connaissent, puis qu'ils puissent recevoir, Seigneur, par la foi en toi, le pardon, oui, Seigneur, de toute leur faute, Seigneur, et avoir la vie, Seigneur. La vie éternelle et aussi la vie abondante en toi. Et je prie, Seigneur, que tu parles, Seigneur, à travers ce message à chacun et chacune et que tu m'aides à partager ce message exactement comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume et pour le salut, Seigneur, du plus grand nombre. C'est ma prière. Dans le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. 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 Dans la lettre de Pierre que l'apôtre Pierre écrit, vous savez, presque 2000 ans passés. Il écrit parce qu'il y a un grand amour pour le peuple de Dieu, pour les enfants. Il écrit pour protéger les chrétiens, pour les avertir vraiment de certains dangers qui leur guettent, qui guettent les chrétiens, en fait, de s'éloigner de Dieu, puis de se perdre, puis de s'égarer. Vous savez. Et vraiment, nous vivons dans un monde aujourd'hui. Vous savez que si nous ne sommes pas prudents, même en tant qu'enfants de Dieu, vous savez, nous pouvons nous égarer et nous éloigner loin du Seigneur. Et Pierre ici, il leur dit des choses pour les aider vraiment, pour les aider à rester proches du Seigneur, à rester connectés avec Dieu. Et il y a deux choses principales que je veux voir avec vous qu'il leur dit ce matin. Et la première chose qu'il leur dit, il leur dit, puis probablement qu'il les aurait appelés sur leur téléphone cellulaire s'il aurait été dans ce temps ici. Hein? Mais la première chose qu'il leur dit, que j'aimerais de voir avec vous, il leur dit ceci, en fait. Il leur dit que Dieu a pourvu pour une provision complète pour vivre selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et je vais juste relire ici, parce que ce n'est pas moi qui le dis ce matin, là. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Juste répétez la première phrase avec moi. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. » On va arrêter ici. OK. Vous savez, c'est un défi parfois de vivre la vie chrétienne, de vivre notre foi chrétienne dans le monde que nous vivons. Hein? On est entouré de mensonges, on est entouré de tentations, d'épreuves, de séductions. On a des faiblesses en nous, il y a le diable en plus qui rôde comme un lion. C'est pas toujours facile de suivre le chemin étroit que Dieu a de préparer pour chacun de nous. C'est vrai, vous savez. C'est pas toujours facile. Puis des fois, on peut se poser la question, bien, est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Est-ce que j'ai tout ce que j'ai besoin, vous savez, pour vraiment marcher dans le plan de Dieu pour ma vie, pour connaître tout ce que Dieu a pour moi et tout ce que Dieu veut faire à travers de moi? Et l'apôtre Pierre, ici, il commence en disant aux croyants, vraiment, il leur dit qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour connaître la vie, pour connaître la vie abondante et pour vivre d'une manière agréable à Dieu. On a tout ce qui est nécessaire à la vie, vous savez. Et la plénitude absolue de la vie réelle, dans et pour l'éternité aussi. L'apôtre Paul, lui, il le dit de cette façon-là dans son épître aux Romains. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Il dit, au contraire, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Hein? Il dit, et en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Wow! Vous savez. Et pouvez-vous dire avec moi ce matin, je suis plus que vainqueur en Jésus? Amen. Hey, ça, j'ai pas besoin de vous forcer trop ici. C'est vrai, c'est ça. Vous savez. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le déclare dans sa parole. Et cette provision, elle nous est donnée en Jésus-Christ, par la foi en Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous sur la croix? Vous savez, si je le crois puis je l'accepte dans ma vie, c'est ça que la Bible nous dit, qu'on devient plus que vainqueur. Et la foi en Jésus, ça nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, comme l'apôtre Pierre il dit, ceci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous savez. En fait, vous savez, toutes les promesses de Dieu qu'on retrouve dans la parole de Dieu, partout où vous les voyez, vous savez, dans la Bible, ils sont oui et amen en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le défi, le besoin, l'épreuve que nous traversons, vous savez, il y a une promesse de Dieu pour nous. Il y a une promesse de vie, il y a une promesse de grâce pour nous en Jésus-Christ. Même devant la mort, Dieu nous promet la vie éternelle. Nous allons ressusciter, nous allons vivre éternellement. Et c'est vraiment... c'est pas moi qui le dis, là. Hein, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et l'apôtre Paul même, il dit aux Éphésiens... Au chapitre 1, il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En Jésus-Christ. C'est important, là, ce petit bout de phrase-là. Là. C'est en Jésus-Christ, vous savez. Il faut mettre notre confiance, il faut recevoir Jésus-Christ. Et tout était accompli, ça nous dit, en Jésus-Christ. Nous avons le recevoir. Par la foi en Jésus, nous recevons la grâce de Dieu qui inclut tout ce qu'on a besoin. Le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, la justification, la vie éternelle, la force, la grâce, l'amour, le secours. Vous savez, on reçoit tout en Jésus-Christ. On est sauvé par Jésus-Christ, pas par nos bonnes œuvres, pas par quoi que ce soit, mais... parce qu'on met notre confiance. Lui, il est juste. Lui, il a accompli la justice pour nous. Amen. Et en le recevant, nous recevons la vie. Et c'est pourquoi la Bible nous dit aussi, vous savez, de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, dans tous nos besoins. On peut venir avec assurance en Jésus-Christ. C'est bien important. Et en plus, vous savez, la présence du Saint-Esprit en nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient vivre en nous lorsque nous recevons Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui nous convainc, merci Seigneur, qui nous convainc de nos péchés pour nous diriger dans les bonnes voies, qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous console, qui déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs, qui nous donne des dons. Le Saint-Esprit vient vivre en nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. On est bien équipé. Amen. Est-ce que vous êtes bien équipé? Amen. Des fois, il faut se le dire, puis il faut se le rappeler, vous savez. Des fois, même moi, ça fait 40 ans que je suis Seigneur, puis des fois, pourquoi je me le rappelle? Là. OK. Seigneur, oui, tu es là, Seigneur. Dans les bras de mon Père, j'ai un refuge assuré, comme qu'on a chanté. Amen. On a vraiment besoin. Et la Bible nous dit aussi que Dieu qui a ressuscité Jésus par sa divine puissance, vous savez, parce qu'il était sans péché et que les liens de la mort ne pouvaient pas le garder, lui qui était juste, vous savez. Mais la Bible nous dit que cette puissance qui a agi en Jésus, elle agit encore en nous qui croyons aujourd'hui. Et l'apôtre Paul le dit, lorsqu'il prie pour les Éphésiens, il dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » On a un héritage en Jésus. Il dit, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. La puissance de Dieu agit en nous aussi. Elle agit en nous, elle est avec nous. Amen. Afin qu'on peut marcher avec le Seigneur, oui, qu'on peut le connaître, qu'on peut le servir. Et en fait, l'apôtre Pierre, il dit, afin que vous puissiez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Nous pouvons être différents dans ce monde ici à cause de la puissance de Dieu qui agit en nous. On peut devenir comme Jésus, c'est ça qu'il est en train de dire. Alléluia. Donc, les promesses de Dieu nous assurent la force, la grâce nécessaire vraiment que nous avons besoin pour vivre selon son cœur. Dieu a tout pourvu. Allez, il nous demande simplement, il dit, mets ta confiance en moi. Reçois ce que j'ai pourvu pour toi. Amen. Ça, c'est vraiment le point de départ. Maintenant, vous savez, avec tout ce que Dieu nous donne, on est équipé, on a un bon pack-sac, on pourrait dire, là, avec tout ce qu'on a. Tu sais. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit de faire avec qu'est-ce qu'on a, avec cette foi-là qui pourvoit? L'apôtre Pierre, il nous dit en fait, OK, je me trompe tout le temps. OK. L'apôtre Pierre, il dit, maintenant, ajoutez à votre foi ces choses. Ajoutez à votre foi ces choses, vraiment. Et si vous êtes prêt, c'est votre prière de votre cœur. Oui, Seigneur, fais ton œuvre. C'est comme un peu, je pourrais dire, qu'est-ce que tu mentionnais, Mireille, tout à l'heure, c'est de prendre la main du Seigneur. C'est comme si le Seigneur nous dit, garde, prends ma main, tu sais. Prends ma main, puis tu vas voir. Tu vas voir qu'est-ce que je vais faire avec toi. Ça va te prendre. Et qu'est-ce qu'il dit? On va le lire ensemble au verset 5, au verset 8. Il dit, c'est pour cette raison même. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Et il dit, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En sens, si ces qualités sont là, ça va produire du fruit dans votre cœur. Vous allez connaître davantage la grandeur du Seigneur, puis votre vie va produire des fruits pour la gloire de Dieu. C'est un peu ça qu'il dit ici. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Vous savez, parfois, les étudiants, peut-être que, tu sais, ils rêvent un peu là, à tout le. Lorsqu'ils vont avoir fini leur étude, vous savez, ils vont avoir un bon diplôme, ils vont avoir un bon salaire, tu sais, puis ils vont avoir, là, la vie va être belle, tu sais, puis c'est merveilleux. Mais des fois, peut-être que les étudiants oublient, OK, tu sais, il y a une petite partie, là, tu sais, qu'il va falloir que tu étudies, tu sais, que tu mettes ta main, tu sais, que tu. Les ressources sont là, puis si tu les utilises, tu vas certainement réussir. Et en fait, vous savez, l'apôtre Pierre, il dit ceci, vous savez, Dieu a tout pourvu, et Dieu, il est prêt de nous aider à faire toutes ces choses-là. Et il nous appelle, vous savez. Il dit, à cause de ça, joignez à votre foi ces choses. Et j'aimerais juste de les voir ensemble avec vous. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ajoutez à votre foi, il leur dit ceci. La qualité morale. C'est pas moi qui le dis, là. C'est la parole de Dieu qui dit, êtes-vous encore avec moi, là? Oui. Tu sais. Et en fait, il dit, à cause de cette provision-là, parce qu'il dit, en fait, parce que Dieu vous a donné tout ce qui est nécessaire, maintenant, croyez que Dieu vous a donné tout ce qui est nécessaire, et joignez votre cœur, mettez-y votre cœur, vous savez, dit, oui, Seigneur, Tu as pourvu pour moi, tu peux le faire, Seigneur, et je me joins à toi. Mettez votre empressement, votre zèle, votre cœur à joindre à votre foi ces choses-là. Et il a dit, si vous ajoutez ces choses-là, vous allez produire des fruits, vous allez connaître Dieu, vous allez rester proche du Seigneur. Et cette chose, vous savez, OK. Lorsque nous acceptons le Seigneur, je vais le dire comme ça, là, je vais essayer d'être plus clair possible, mais vous savez, Dieu a un plan pour notre vie. Il a un plan pour notre vie. Des choses merveilleuses pour notre vie. Puis c'est Dieu qui peut le faire en nous. Amen. Qui peut l'accomplir en nous. Certainement. Mais Dieu, il ne va pas contre notre volonté. On n'est pas des robots. Et Dieu, vraiment, il va accomplir tout ce qu'il veut accomplir dans notre vie si nous sommes prêts de dire « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je m'unis à toi dans le plan que tu veux accomplir dans ma vie. » Êtes-vous avec moi?
Amen.
On est encore libre de choisir, tu sais, OK, non, tu sais, je veux vivre ma vie comme que je veux, tu sais. On est encore libre. Mais si nous choisissons de vivre notre vie, de ne pas rechercher ces choses, en fait, là, vous savez, notre vie ne produira pas les fruits comme que Dieu voudrait qu'elle produise, et on ne connaîtra pas la richesse de la vie abondante que Dieu veut nous donner dans notre vie. La paix que Dieu veut nous donner, une paix qui surpasse toute intelligence. Une joie parfaite que le monde ne peut pas nous donner. De voir notre vie produire des fruits, influencer les gens autour de nous. Êtes-vous avec moi ce matin? On peut vivre notre vie chrétienne, vous savez, puis non, ça là, I don't want it, you know. Ou on peut vivre notre vie chrétienne, oui Seigneur. Comme on a chanté tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé, Seigneur, ranime la flamme, la passion dans mon cœur, vous savez. Si c'est notre prière de notre cœur, c'est une prière que Dieu va répondre, que Dieu va faire. Et oui, Seigneur, crée en moi toujours ce désir-là. Et c'est là que je m'en vais, là, pour quelques minutes, là, OK? Je ne veux pas être trop long, là. Et l'apôtre, il dit ici, OK. Il dit, ajoutez à votre foi la qualité morale, la vertu, hein? La bonne conduite. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le mot ici, vraiment, puis dans différentes traductions, c'est dit honnêteté, mais vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est une recherche de devenir de plus en plus comme le Seigneur. Une recherche de devenir comme le Seigneur dans son caractère, son amour, sa bonté, vous savez. En fait, c'est le contraire, on pourrait dire, c'est le contraire de devenir indifférent au péché. Parce qu'on peut devenir indifférent d'un fois. Et qu'est-ce qu'il leur dit ici, vraiment? C'est, alors, joignez à votre foi toujours ce désir-là, vous savez, de rechercher à devenir plus comme le Seigneur. Est-ce que je vous ai perdu, là?
Non.
Tu sais, Seigneur, vraiment, crée en moi, Seigneur. C'est comme une prière dans notre cœur. Change-moi, Seigneur, à ton image, Seigneur. Change mon caractère. Fais croître en moi le désir, tu sais, d'être comme toi, de porter des fruits pour ta gloire, de devenir... Et ça, c'est une prière, vous savez, c'est une prière qui va nous garder proche de Dieu aussi, puis c'est une prière que Dieu va exaucer, qu'il veut exaucer dans notre vie, vraiment. Et ça va nous garder proche de Dieu. Amen. En tout cas, je pense que vous avez compris, là, j'essaie de le mettre le plus clair possible, mais c'est la chose, c'est dangereux, vous savez, lorsqu'on vit notre vie chrétienne, puis on ne care plus si ma vie, si je marche avec le Seigneur ou si je ne marche pas avec le Seigneur, c'est ça que je veux dire. Là, on est en train de s'éloigner de Dieu, vraiment. Et c'est dangereux, vous savez, c'est dangereux, et ça nous éloigne, ça nous empêche de recevoir tout ce que Dieu a de bon de préparer pour nous. T'es avec moi? Amen. OK. La deuxième chose qu'il dit, en fait, il dit à ce désir-là d'être plus comme Jésus, rechercher la connaissance. La connaissance, ici, dans différentes traductions, c'est traduit science, vous savez. Et c'est vraiment, c'est de rechercher à joindre notre intelligence, notre cerveau, à notre foi, à notre caractère moral. C'est de rechercher vraiment à comprendre et à connaître Dieu de plus en plus, vous savez. Pourquoi je crois ce que je crois? Vous savez, notre foi en Dieu, là, en Jésus, c'est pas une foi sans fondement, sans intelligence, sans fondement historique, logique et même scientifique avec des preuves authentiques. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas y ajouter de la foi parce que Dieu il est plus grand que notre petit sabot, là, tu sais. C'est sûr que ça prend de la foi pour comprendre Dieu. Mais, en fait, vous savez, c'est beaucoup plus logique c'est beaucoup plus logique et même en accord avec la vraie science de croire qu'il y a un vrai Dieu qui a créé notre monde que de croire qu'il y a un monde qui existe juste par coïncidence, comme ça. Souvent, je prends l'exemple, c'est comme faire exploser un dictionnaire, vous savez, et penser que le dictionnaire, mais qu'il retombe en bas, il va tout être écrit parfaitement, tu sais, les phrases vont tout être écrites parfaitement. Comment de chance qu'il y a que le dictionnaire va être, une fois qu'il est explosé, qu'il retourne tout parfaitement écrit? Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. Vraiment, là, ça fait pas de bon sens, hein? Bien, de croire que notre univers vraiment est arrivé juste comme ça, là, tu sais, c'est un peu ça. Ça fait pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui a créé notre univers. Et c'est Dieu qui l'a créé, vraiment. C'est Dieu qui l'a créé. Et le point que je veux communiquer, c'est que Dieu nous a donné une intelligence pour que nous puissions le connaître, vous savez. Et avec l'aide du Saint-Esprit et la parole de Dieu, avec notre intelligence, nous affermissons notre foi dans le Seigneur. Et de rechercher continuellement à nourrir notre foi, à connaître le Seigneur de plus en plus, ça nourrit notre cœur et ça nous garde proche de Dieu. Amen. Et c'est de cette façon-là que Dieu peut accomplir son œuvre en nous, parce que Dieu, il continue à nourrir notre cœur dans la vérité. Êtes-vous avec moi? Vous savez, un enfant de Dieu qui arrête de rechercher à connaître Dieu de plus en plus, c'est comme un enfant à un moment donné qui arrête de manger. Vous savez, si on arrête de manger à un moment donné, là, un enfant, il va devenir faible, hein? Un enfant de Dieu, un chrétien aussi, qui arrête de manger, de rechercher à connaître Dieu, c'est qu'il va devenir plus faible dans sa foi. Et Dieu nous encourage à toujours chercher à le connaître pour qu'on puisse vraiment, pour que son plan s'accomplisse dans notre vie, qu'on soit fort dans le Seigneur. Vous êtes avec moi? À la connaissance, il dit, OK, là, je vais accélérer un peu, là. À la connaissance, la maîtrise de soi, vous savez. La maîtrise de soi, en fait, c'est important dans tous nos appétits, vous savez, même dans des bonnes choses dans notre vie, même dans les loisirs, dans le travail, dans nos ambitions, vous savez, dans nos désirs, en toutes choses, vous savez, c'est important de rechercher la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça nous aide à demeurer proche du Seigneur. Et une vie équilibrée avec le Seigneur, une vie balancée dans notre famille, avec le Seigneur, dans notre travail, dans nos loisirs, ça nous permet aussi de connaître les bénédictions de Dieu. Il y a un temps pour se reposer. Le sabbat, hein? Le principe du sabbat, comme que vous avez entendu. C'est important, vous savez. Et c'est important de... Seigneur, aide-moi, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, à vraiment être équilibré dans tout ce que tu apportes dans ma vie. À la maîtrise de soi, la persévérance. L'apôtre Paul, Pierre dit, la persévérance. Oh, dans une autre traduction, ça parle de patience, hein? Moi, j'aime pas ça parler de la patience, ça me rend impatient. Hein? Comment est-ce qu'il y a de personnes qui aiment ça, là, que vous priez pour de la patience, là? Hein? C'est ça, vous savez. Mais la Bible, vous savez, nous parle de la patience puis de la persévérance. Ça n'en prend, vous savez. Et vous savez, je ne crois pas que Dieu peut nous délivrer du jour au lendemain de certaines choses dans notre cœur que Dieu ne peut pas nous délivrer de l'orgueil, de l'arrogance, de la jalousie, de l'égoïsme, de la rébellion, de l'incrédulité. Je ne crois pas que Dieu pourrait le faire juste comme il peut le faire juste comme ça. Ça prend du temps. Et le seul moyen que Dieu peut changer notre cœur, c'est à travers parfois des épreuves, des faillites, des échecs personnels, vous savez. Et ça demande de la patience. Et ça demande de la persévérance. Mais si nous persévérons puis que nous soyons prêts de persévérer dans nos épreuves, vous savez, on va voir le fruit. On va voir le fruit. On ne sera plus la même personne. Moi, je peux vous dire, j'aime pas les épreuves. Y en a-tu qui aime les épreuves ici, dans la vie? Je pense pas, hein? On les aime pas, les épreuves. Mais une fois qu'on a passé à travers, puis qu'on a persévéré, puis qu'on a mis notre confiance en Dieu, merci Seigneur pour le changement que tu as fait dans ma vie. L'épreuve, c'est comme un feu qui nous transforme, qui purifie notre cœur. Et c'est une des raisons pourquoi, si nous voulons vraiment changer, on doit accepter la persévérance. OK. À la persévérance, la piété, de demeurer fidèle à Dieu. C'est ça que le mot piété veut dire, attachement à Dieu. Vous savez, les épreuves de la vie, ça peut parfois nous faire remettre en question notre foi en Dieu. Ça peut nous faire demander des fois, ben Dieu, t'es-tu vraiment là? Entends-tu vraiment nos prières? T'es-tu? Y en a-tu qui ont déjà passé par là? Y en a-tu qui passent par là? Ça nous arrive, hein? Dieu, es-tu vraiment là? Il me semble que je prie pour quelque chose, puis ça n'arrive pas. Vous savez, je connais quelqu'un qui a déjà crié dans un salon funéraire une fois, à la suite du décès de sa femme. Puis il criait fort, je me souviens. Il criait, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que ma femme, elle avait 43 ans, elle est morte du cancer? Pourquoi Dieu que tu es venu chercher ma femme? Et je me souviens. Et ça a pris plusieurs décennies avant que sa foi revienne à Dieu. Afin qu'il revienne à croire que Dieu était bon pour lui. Et je peux vous dire, j'ai eu le privilège un jour de conduire cette personne-là à Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Et je m'en souviens. Je me souviens quand il criait dans le salon funéraire, puis je me souviens quand je l'avais dans mes bras, puis je l'ai ramené au Seigneur, qui a confessé Jésus-Christ comme son sauveur. C'est mon Père. C'est mon Père, puis merci Seigneur. Mais je vous dis ceci parce que quelqu'un a dit que les épreuves de la vie, vous savez, ça peut nous rendre meilleurs ou ça peut nous rendre pires. Ça dépend de la façon que nous réagissons. Ça peut nous rapprocher de Dieu ou ça peut nous éloigner de Dieu. Et il y a certaines personnes qui croient que c'est Dieu qui est la cause des malheurs dans leur vie et de tout le mal qui est dans le monde. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile qui arrive, il y a des gens qui croient que, ben, ils blâment Dieu, vous savez. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas contre nous, Dieu est pour nous. Et il nous l'a prouvé, vous savez. Il nous l'a prouvé en venant mourir sur une croix pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, même alors que nous étions pécheurs, vous savez. Et lorsqu'on nous traversons des épreuves, vous savez, Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider. Et souvent, au lieu de dire que c'est, vous savez, c'est Dieu qui de blâmer Dieu, plutôt sans Dieu, les épreuves seraient vraiment difficiles. Dieu est là pour nous aider, puis il sera toujours là pour nous aider. Ne laissons pas nos pensées devenir brouillées. Et c'est un peu pour ça, vous savez, que l'apôtre ici dit à la persévérance, demeurez attachés à Dieu, gardez vos pensées sur le Seigneur, n'abandonnez pas le Seigneur. Et il dit en plus, il dit alors que vous recherchez le Seigneur, recherchez l'amitié fraternelle. Et ça, c'est l'Église, vraiment. C'est la fraternité des frères et des sœurs chrétiens, vous savez. La pensée ici, c'est de rester attaché. N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas la famille chrétienne, vraiment. Et nous avons besoin d'une famille chrétienne pour grandir dans le Seigneur, pour continuer dans les voies du Seigneur. Vous savez, nous avons besoin de l'Église. Amen. C'est Dieu qui l'a institué comme ça, vous savez. Et l'Église, ça nous aide beaucoup. Le plan de Dieu pour notre vie, oui, c'est qu'on soit connecté dans une Église. Et je sais que l'Église n'est pas parfaite. On a besoin d'une Église. Il y a des gens parfois qui vont dire, « Bien, je n'ai pas vraiment besoin de l'Église, tu sais. » Tu sais, pourvu que j'ai ma foi, c'est pas l'Église qui nous sauve, oui, c'est le Seigneur qui nous sauve, c'est vrai. Mais l'Église, vous savez, ça nous aide à rester proche du Seigneur. Et à travers l'Église, Dieu nous rencontre et nous fortifie pour accomplir tout le plan, vraiment, qu'il y a pour notre vie. Êtes-vous avec moi? Amen. J'ai l'opportunité de faire des chapelles avec des joueurs de hockey, avec les Titans, puis pour certains, c'est l'endroit, c'est leur église, parce que des fois, ce n'est pas toujours facile. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Puis j'aimerais ça un jour être le chaplain d'un de ces gars-là. Là. Hein? Si vous venez à Bathurst, là, hey, si vous venez jouer pour les Titans, là, vous avez une place pour rester. Okay, les gars? Puis vous êtes aussi bien d'être à la chapelle. Mais c'est important, l'Église, vous savez. Et malheureusement, on voit aujourd'hui un mouvement, il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent de l'Église. Et c'est triste, vous savez. Et si nous voulons vraiment recevoir tout ce que Dieu veut dans notre vie et que nous voulons vraiment faire la différence que Dieu veut que notre vie fait dans notre monde, il faut être connecté dans une Église pour recevoir et pour donner aussi. C'est comme ça que nous croyons. Et je prie, vous savez, que le Seigneur ramène tous nos jeunes, et nos moins, les moins jeunes aussi. Hein? Parce que l'Église, c'est important. Et c'est ça que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il dit ici. Et en fait, la dernière chose qu'il dit, et à l'amitié fraternelle, l'amour, et c'est l'amour agapé. C'est d'être prêt, vous savez, c'est un amour qui est prêt de donner et de sacrifier pour notre prochain. Non seulement vivre pour nous autres mêmes, vous savez, mais de vivre pour les autres aussi. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est beaucoup centré, vous savez, sur nous-mêmes. Hein? Prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi. Puis ce n'est pas une mauvaise chose, là, comprenez-moi bien. Là. Mais la Bible, vous savez, nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et un amour pour les autres, vous savez, alors qu'on recherche à aimer les autres, c'est là que nous sommes en fait comblés. Et le plan de Dieu, ce n'est pas qu'on vit juste pour nous autres. Mais c'est qu'on vit aussi pour donner, répandre l'amour de Dieu dans notre vie. Donc ce matin, je termine simplement en disant, oui, que Dieu a une provision complète pour connaître la vraie vie. Vous savez, Dieu a pourvu pour nous. Et nous devons se rappeler que oui, Dieu, tu as donné. Et nous devons nous rappeler aussi que c'est en recherchant ces choses, vous savez, ces qualités qu'on a vues, que nous allons connaître pleinement toute la vie que Dieu a pour nous. Et il y a une autre chose qu'il faut ajouter à notre foi. Et je termine ici. Croyez-le ou non, une autre chose. Puis là, vous êtes... J'espère que c'est la dernière. Il dit d'ajouter à votre foi le baptême d'eau. Amen! La Bible dit, vous savez, la Bible nous dit clairement, vous savez, que ceux qui ont cru en Jésus, qui ont confessé leur foi, qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour leurs péchés, vous savez, la Bible le dit clairement que ceux qui ont décidé de recevoir Jésus-Christ, qui devraient se faire baptiser dans l'eau comme un signe, vraiment, comme une confession de leur foi en Jésus, et aussi vraiment comme une déclaration publique et un engagement qu'ils veulent servir et suivre Jésus-Christ. Jésus a dit ceci, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le baptême d'eau, vous savez, ce n'est pas une pratique qui a été inventée par l'Église. C'est une pratique que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et Jésus a institué deux cérémonies ou ordonnances, la Sainte Cène, la communion que nous prenons régulièrement, et le baptême d'eau, vous savez. Et lorsque nous prenons la communion, le pain puis le jus, symboliquement, ça représente le corps et le sang de Jésus. Le baptême d'eau, ça exprime et symbolise aussi une mort et une résurrection. C'est le croyant, vraiment, qui a mis sa confiance en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, pour la vie éternelle, qui reçoit Jésus, vraiment. C'est une rupture dans sa vie passée, puis c'est l'entrée dans une nouvelle vie en Jésus-Christ par la foi. C'est notre union avec lui. Nous sommes enterrés, nous sommes morts à Jésus, puis nous sommes ressuscités dans une nouvelle vie. Et c'est pour ça que nous allons baptiser les gens ici dans l'eau, qui vont aller complètement autour de l'eau, puis qui vont être... On ne les laissera pas autour de l'eau, même ça me tentait de laisser Robert pour un petit bout de temps. Là. C'est ma chance, là, Robert, de te sauquer comme faux. Hein? Mais aujourd'hui, c'est vraiment une joie de pouvoir célébrer le baptême d'eau des personnes qui sont ici, des personnes qui veulent se faire baptiser, qui veulent déclarer publiquement, et pas juste publiquement ici, mais devant Dieu, qu'ils ont mis leur foi en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, pour être sauvés. Amen. Et qu'ils ont reçu Jésus-Christ et qu'ils veulent vivre pour eux. Et on se réjouit avec ces gens. Amen. Et vous savez, la Bible nous dit que Jésus a dit, « Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. » Et certainement, vous savez, certainement que nous pouvons être assurés que Jésus va confesser notre nom devant son Père un jour, parce que nous l'avons confessé. Amen. J'aimerais qu'on pourrait prier ce matin. Seigneur, merci.